Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
C'est tout en anglais.
Sophie Durocher.
C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
Le Québécois moyen était...
Guy Nantel.
Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. »
La rencontre.
Cet asservissement, cette servitude volontaire.
C'est quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? »
La rencontre, Nantel, Durocher.
Guy, il faut absolument qu'on parle du décès de Mahsa Amini, cette jeune femme iranienne, 22 ans. Elle a été arrêtée par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas bien son voile. Elle est morte des suites de son arrestation. Et depuis, ben, c'est l'ébullition en Iran. C'est rempli de femmes dans les rues qui enlèvent leur voile, qui le brûlent. Comment se fait-il que nos féministes québécoises sont pas en train de créer un hashtag en appui à Mahsa Amini?
On voit rien passer là-dessus, hein? Rien du tout. Et c'est ça que j'en reviens juste pas de voir ça. T'sais, moi, je me souviens exactement un an, presque jour pour jour, quand j'avais sorti une vidéo là pour le lancement du livre offensant. Une des 5 vidéos que j'avais faites, c'était sur justement la culture du viol, puis bon, la masculinité toxique et tout ça. Puis moi, j'avais juste dit que, écoute, je trouve que ces termes-là sont un peu galvaudés, puis ça amenait juste le monde à de la polarisation. Écoute, j'ai reçu des milliers de messages haineux, là. Tu sais, ils sont tous prêts pour la guerre. Il y en a même qui voulaient faire des manifestations anti-Nantel dans la rue. Mais ils sont où? Ils sont où quand ces affaires-là arrivent? Pour des vrais combats féministes que des femmes comme Thérèse Casgrain auraient menées, ils sont pas là.
T'as tout à fait raison, puis je trouve que tu fais un excellent parallèle, Guy Nantel, parce que quand on parle de masculinité toxique, si on aime ce terme-là, moi je suis comme toi, j'ai énormément de réticence avec ce terme-là. Premièrement parce que j'ai un fils qui a 14 ans, puis je suis tannée que chaque fois qu'on utilise le mot masculinité, il y a le mot toxique qui soit associé. Puis je me dis dans quel monde il grandit, lui, que chaque fois qu'on parle du fait d'être un homme, c'est associé à quelque chose de négatif. Mais mettons qu'on admet ce terme-là. Y a-t-il un exemple de masculinité toxique plus probant qu'un molla qui dit « on va torturer, emprisonner, tuer des femmes si elles portent pas un chiffon comme il faut sur la tête ».
Ben, c'est raison de plus pour dire les mêmes personnes, là, si vous entendez cette chronique-là, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Quand est-ce que vous allez en faire des manifestations? Arrêtez de vous attarder aux niaiseries puis aux jeux de sémantique, puis allez-y avec les faits concrets, là, des gens, des femmes qui sont assassinées. Puis c'est pas la seule, évidemment. Il y a les manifestations dont tu parlais dans les rues, puis il y a 300 morts en passant. Hein, dans les journaux ici, là, on parle de 15, 17, des fois 3 morts. Ce serait au-dessus de 300 morts en ce moment, selon certaines ONG. Alors, oui. C'est des femmes, pour la plupart, qui se font tirer dessus en ce moment dans la rue avec des fusées à plomb, là, un peu comme la chasse aux canards, sinon avec des billes de métal, évidemment des coups de matraque à la tête, 300 morts. Et là, je lisais le papier de Rima El-Khoury ce matin dans la presse. Évidemment, là, quand ces affaires-là arrivent, là, il y a toujours le ton de la nuance avec le petit ton mielleux, là. Elle s'appelait Mahsa. Elle avait 22 ans. Elle n'en aura jamais 23. Pourquoi tu penses qu'elle n'aura jamais 23? Parce que, ultimement, nos gouvernements, là, ils font rien. Ils font même l'apologie, bien souvent, de ces symboles de domination-là, des hommes sur des femmes, dans des régimes totalitaires. Fait que ces régimes-là, ils agissent en toute impunité. Et tout ça, ben, nos gouvernements réagissent pas. Parce qu'il y a justement des médias qui, dans leur trame de fond, font toujours la promotion de ces affaires-là. Alors là, tu peux bien, après ça, avoir une espèce de ton comme bien concerné. C'est la même gang là, qui, quand il y a les attentats de Charlie Hebdo, là, que tu vois qui disent « Oui, on peut être Charlie, mais en même temps considérer qu'ils ont un peu couru après. » Non, c'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Là.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas être Charlie, mais... Et de la même façon, tu peux pas être Mahsa, mais...
Ben, c'est ça.
Alors, exactement. Moi, je trouve ça assez assez probant. Écoute, ce qui est assez intéressant quand même, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, un organisme qui, moi, avait perdu énormément de crédibilité à mes yeux, Amnesty International, qui était vraiment dans le toutes sortes de dossiers qui avaient strictement rien à voir avec leur mandat. Quand même, dans les jours qui ont suivi, ils ont dénoncé fortement ce qui est arrivé à Mahsa Amini. Donc, il faut quand même reconnaître, mais tu sais, la fédération.
Ouais, mais Sophie, entre toi et moi, là, je veux dire, c'est pas l'exploit du siècle que l'Amnesty International réagisse par rapport à cette question-là. Ce serait bien le bout du bout. C'est comme si tu me disais que Greenpeace a réagi quand il y a eu l'explosion à Tchernobyl. Là.
Oui, mais c'est parce que. Oui, mais Guy, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que l'année dernière, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec la directrice d'Amnesty International au Québec et on a eu toute une discussion à propos de la loi 21, à propos du voile, et je m'attendais pas du tout à ce que cette femme-là, qui manifestement avait très 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 peur des amalgames et de tout bon tout le petit discours habituel, que cet organisme-là qui a été un petit peu qui a dévié de son mandat original, qui revienne justement à son mandat original en défendant les droits de la personne, c'est plutôt dans ce sens-là là, c'est pas Je les applaudis pas.
J'espère, là. En fait, je te blâme pas de rien là, de réagir demain, mais ce que je veux dire, c'est que si même les ONG qui sont à la base,
ouais,
que
sais.
C'est ça leur ADN, réagissent plus quand des femmes se font tuer parce qu'on leur voit une mèche de cheveux. C'est quoi ça, la police des mœurs, puis de la moralité, puis de... Écoute, tu sais, il va falloir à un moment donné qu'on choisisse, là. Tu peux pas... Tu sais, je regardais Rima El-Khoury dans son papier, mais elle finit justement en disant, ah, ben oui, mais tu sais, c'est pas parce que je fais un article comme ça que je peux pas apporter le moindre bémol par rapport à la loi 21. Mon œil, le moindre bémol. Tu fais pas le moindre bémol. Tu fais tout... Tu traites de raciste les gens qui disent, qui défendent la neutralité de l'État. C'est pas un moindre bémol, ça. C'est carrément en faire la promotion. Puis à un moment donné, ben, c'est ça qui arrive, c'est que on extrait totalement la portée sociopolitique de ce geste-là. Et là, on mélange tout. On mélange l'islam et l'islamisme. Mais l'islamisme, là, c'est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour soumettre les femmes, pour les traiter comme des animaux. Puis c'est pas la seule place en Iran. Il y en a d'autres.
Ouais.
Puis même des pays, des fois, qu'on soupçonne pas en passant.
Ouais.
Tu sais, tu vois, quand tu sors des grandes villes, là, moi, j'étais allé en Égypte à un moment donné à Siwa, là, dans le désert. C'était à peu près à 15 heures d'autobus. Mais j'ai vu un espèce de 4x4 rempli de femmes. Ils battaient à coups de bâton, là, tu sais, comme à coups de bambou, là, des femmes qui étaient voilées, mais même le visage, là, tu sais, c'est pas juste les talibans puis les Iraniens qui font ça, là.
Oui. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans la foulée de tout ce mouvement-là en soutien à Mahsa Amini, ben, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais il faut relativiser le voile parce que ça fait partie de la culture de l'Iran. Et là, il y a eu un fort ressac, vraiment un gros bac de gens qui ont dit ça n'a rien à voir avec la culture iranienne. Et il y a tout un mouvement sur les médias sociaux où les gens mettent des photos de femmes iraniennes vivant les cheveux au vent avant l'arrivée. Donc,
avant 79.
Exactement,
ben oui.
Exactement, avant l'arrivée des mollahs au pouvoir. Donc, c'est important. Et c'est plein de femmes qui se promènent dans les rues de Téhéran en jupe courte, les cheveux au vent, avec des...
En bikini.
Ben oui, en bikini. Sur les plages.
De ces photos-là.
Alors,
mais est-ce que la lapidation fait aussi partie de la culture des femmes iraniennes? Je veux dire, ça va jusqu'où, cette logique-là? Je veux dire, faut se poser la question, là. Les femmes, présentement, là, qui manifestent, là, tu sais, justement, là, tu sais, Rima El-Khoury, dans son article, tu sais, elle parlait de ça, puis elle disait, ces femmes-là exigent d'abord et avant tout la liberté de le mettre ou de l'enlever. Excuse-moi, mais ce qu'elle crie, là, c'est non au foulard, non au turban, oui à l'égalité. C'est ça qu'elles disent. Après
exactement.
Ça, oui, forcément, des femmes peuvent le porter. On ne dit pas qu'il n'existe pas d'individus qui le portent. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui disent le porter librement, aussi d'abord et avant tout à cause de toutes les questions de pression sociale, parce que tu veux évidemment faire partie de ton groupe, de ta communauté, tu veux pas te faire gosser sans arrêt. C'est compliqué l'histoire du choix, vraiment du pur consentement, parce qu'à un moment donné, il y a des choses aussi qui se font de cette manière-là. Parce que si des femmes étaient si libres de le porter, il faudrait quand même que quelqu'un m'explique à un moment donné pourquoi... Tu sais, par exemple, moi, je suis allé avec ma blonde en Turquie.
Ouais.
Ben, tu sais, je veux dire, c'est une blanche aux cheveux blonds, là. Tu sais, puis à un moment donné, on était Ankara, pourtant, là, tu sais, c'est quand même la capitale. Mm-hmm. Mais il y a quelqu'un qui est venu à voir et qui a dit, va t'habiller, là.
Ah ben moi ça m'est arrivé en Jordanie quand j'étais jeune, j'étais adolescente. Mon père était en poste à Beyrouth à l'ambassade canadienne et on est allé en Jordanie et j'avais fait l'erreur, bon j'étais jeune, de me promener en short et en t-shirt et on a commencé à se faire lancer des pierres.
Mm-hmm. Absolument, je me souviens une fille qui avait fait la course Destination Monde au Yémen, la même chose. Tu sais, puis même pas juste ailleurs là, tu sais, on parle de ça puis les gens font toujours ouais mais dans les lointaines contrées, mais souviens-toi là quand il y avait eu l'histoire de la police communautaire à Longueuil qui était allée dans une mosquée.
Tellement.
Te souviens-tu de ça? Ça
avec Fadi Daguerre.
Un an et demi, deux ans à peu
oui,
près.
Oui.
Ben souviens-toi les policières là qui devaient porter un voile pour pas offenser ces messieurs. La prochaine affaire, c'était quoi? C'était de sortir des policiers hommes homosexuels pour pas les choquer non plus?
Oui, oui, souviens-toi, t'as tout à fait raison de rappeler ça. Et rappelle-toi aussi que dans le texte, on laissait entendre que celle qui avait refusé de porter le voile pour cette rencontre, on laissait entendre entre les lignes qu'elles étaient intolérantes. D'ailleurs, parlant de ça, je vais faire un lien. Il y a une journaliste américaine que j'adore, Christiane Amanpour. Elle devait faire une entrevue parce que le président iranien est en ce moment à New York pour une rencontre de l'ONU. Et donc, elle devait faire une entrevue avec lui. Elle attend. Finalement, il y a un quelqu'un dans l'entourage du président iranien qui veut la voir en lui disant, écoutez, pour faire l'entrevue avec le président iranien, vous devez porter le voile. Elle a dit, no way, José. Ben, l'entrevue a été annulée. Ben, moi, je dis bravo, Madame Amanpour. Bravo.
Amanpour, qui est une Iranienne, elle, justement, aussi, ben, d'origine, maintenant, elle vit aux États-Unis, puis qui a carrément répondu. On vit à New York ici.
Et là?
Ça n'existe pas à New York, cette tradition-là. Alors, j'ai pas à me soumettre. Mais sais-tu ce qui est drôle dans ce que tu racontes, Sophie, et ce que je trouve assez extraordinaire? C'est qu'imagine-toi le contraire. Imagine-toi Justin Trudeau, qui va dans un pays musulman, je sais pas, ça peut être en Inde, au Pakistan, quoi que ce soit, puis il y a une journaliste qui veut l'interviewer, puis il dit, est-ce que vous enlèveriez votre voile, ou peu importe la forme de voile qu'elle porterait, là, mettons le hijab, parce que c'est contre mes convictions religieuses. Imagine-toi le tollé que ça créerait.
Ben non, c'est sûr, mais à l'inverse, on le fait. Et rappelle-toi, à l'inverse, là, je viens de rendre hommage à Christiane Amanpour, qui a dit justement, ben c'est ça, on est à New York, c'est pas comme ça que ça marche à New York, ben... contrastons ça, mettons ça en parallèle avec la première ministre de l'Alberta à l'époque, il y a quelques années, qui avait fait une vidéo. En fait, elle faisait une vidéo chaque année pour souhaiter bon ramadan aux citoyens musulmans de l'Alberta. Et elle se voilait. Mais je veux dire, tu peux très bien. Quand elle va souhaiter bonne fête aux gens qui sont sikhs, elle va se mettre un turban sur la tête. Quand elle va souhaiter bonne fête aux partisans de Donald Trump, elle va se mettre une casquette Make America Great Again.
Non, en fait, c'est tout ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, puis même dans des décideurs, qui sont carrément incultes par rapport à la symbolique particulièrement du voile islamique et qui ne comprennent pas que c'est d'abord et avant tout un symbole de soumission et d'humiliation de la femme. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas ça, je suis désolé, mais c'est peut-être bien cute, mais ce n'est pas qu'un vêtement et qu'une mode. Si on exclut totalement cette dimension-là, ben, on va juste parler d'un vêtement, alors que la réalité, ce n'est pas qu'un vêtement. Moi, quand j'entends des gens dire, on dira pas aux femmes comment s'habiller, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on pourrait dire, écoute, on laissera pas les gens porter ce symbole-là sur eux parce que ça porte un message.
Ah oui.
Et après, c'est une question de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais il y a bien des gens qui le voient pas comme ça parce qu'ils sont pas en toute connaissance de cause. Je dis pas que c'est tout le monde, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça bien de fun puis bien cute, mais qui réalisent pas que pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont massacrées ailleurs dans le monde.
Absolument. Très important de le rappeler, puis je veux souligner ton courage quand même, parce que parler de ces questions-là aujourd'hui... en tout cas, on a juste à penser à Salman Rushdie, puis on a des petits frissons dans le dos. Merci beaucoup, Guy Nantel.
Ça marche, bonne journée.